Aymeric l'aîné, bonjour.
Bonjour.
Vous donniez à l'instant une intervention sur les nouvelles technologies et leur usage, et notamment sur cette culture hacker, makers. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette culture ? Qu'est-ce qu'un hacker ?
Voilà. Alors, on va essayer de définir ça déjà en disant ce que ça n'est pas, puisque pour beaucoup de gens, hacker égale pirate, pirate informatique, et donc usage mal intentionné des nouvelles technologies. Alors que, historiquement, le terme de hacker définit celui qui va savoir s'emparer de ces technologies pour les employer au mieux. Et s'en emparer, ça veut dire, je vais faire l'image d'une mécanique, hein, c'est la démonter pour comprendre comment elle fonctionne et être capable de la remonter, de l'améliorer. La notion de hacker, c'est strictement la même chose. Ça s'applique donc à du logiciel, à du matériel, et pas que à du matériel informatique ou nouvelles technologies, mais à l'ensemble de notre environnement technologique. Donc l'idée du hacker, voilà, c'est celui qui va savoir détourner intelligemment et créativement son environnement technologique pour répondre à ses besoins. Voilà.
Alors, c'est une culture technique, mais quelles sont les valeurs, on va dire, de cette culture ?
Les valeurs défendues par les hackers, c'est clairement l'autonomie, l'indépendance. Alors quand on parle de réappropriation des technologies, c'est du matériel, mais quand on dit du logiciel, c'est donc aussi des moyens de penser le fonctionnement d'un logiciel, et donc par extension les moyens aussi peut-être de penser la manière dont on fonctionne notre relation aux choses. Par rapport à tout ça, les hackers revendiquent clairement une forte autonomie, une forte indépendance, une liberté d'expression, une liberté de moyens dans ce qu'ils font. Concrètement, le hacker, c'est celui qui ne va pas faire ce que la notice lui dit de faire et qui va trouver les moyens d'employer à sa propre manière un appareil ou bien dans le cadre d'un logiciel, va peut-être même carrément développer lui-même le logiciel pour répondre strictement à ses besoins et surtout va libérer l'usage de ce logiciel ou de ce matériel, c'est-à-dire mettre à disposition de tout un chacun les sources de ce logiciel ou de ce matériel par source. Je vais essayer de simplifier, j'entends les plans, le mode de conception, pour que quiconque puisse se réapproprier à son tour l'objet en question et le modifier, l'améliorer, afin de ne rien enfermer, puisqu'aujourd'hui on est entouré d'objets qui sont tout à fait fermés. On les achète, on les utilise, mais on nous laisse très peu les moyens de les modifier, de les réparer ou de les améliorer. Ce qu'on va nous demander, c'est, une fois que ce sera obsolète, d'acheter le suivant ou de le remplacer par un soi-disant meilleur, alors qu'il y aurait probablement moyen de faire longtemps avec le premier.
Bon, justement, cette culture, est-ce qu'elle entre directement en contradiction, en rupture ou en continuité avec une certaine forme d'organisation sociale, d'usage des technologies ? Et je pense notamment à la question de la propriété privée.
Alors, je vais répondre les deux, en quelque sorte, puisque c'est en rupture totale avec les modes de consommation qui nous sont proposés aujourd'hui, clairement, puisque j'en ai parlé à l'instant, on est tout à fait dans l'idée de l'obsolescence, on parle même d'obsolescence programmée, on nous vend un appareil ou un produit qui est fait pour être consommé sur une certaine durée, soit il va s'user, soit il va devenir obsolète parce qu'on nous en fournit un meilleur et il faut racheter le suivant. Donc de ce côté-là, l'éthique hacker, elle rentre en rupture totale avec ce mode de fonctionnement. Et en même temps, c'est en continuité avec nos usages parce que malgré ce que nos modes de vie nous imposent aujourd'hui, ce principe même de réappropriation, de bricolage, de détournement des objets pour aller dans le sens de nos besoins, ce n'est pas nouveau, absolument pas. Je veux dire, humainement parlant, on a toujours, tous, de tout temps, bricoler, bidouiller, réparer quand ça ne fonctionne pas très bien, essayer de comprendre pour se servir mieux des objets qui nous entourent. Et voilà, je veux dire, l'atelier de bricolage dans le garage de tout un chacun, il n'est pas nouveau. Le fonctionnement des hackers côté nouvelles technologies, c'est la même chose. C'est l'idée de se dire, à la maison, chez moi ou avec d'autres, en demandant de l'aide, je vais pouvoir me rendre service à moi-même et rendre service aux autres plutôt que d'acheter ou de consommer plus. Donc, d'une certaine manière, continuité, parce que c'est le hacking, au sens bricolage, détournement, c'est fondamentalement humain.
Alors, en tant que spécialiste des sciences de l'éducation, quel esprit est-ce que ça développe, justement, chez les gens qui pratiquent le hacking ?
Oui, alors le hacking, du côté des, alors on va dire sciences de l'éducation, mais du côté du transfert de savoir et de compétences, on est dans un fonctionnement, là aussi, complètement ouvert, où le savoir n'est pas centralisé chez une personne, mais chacun détient des connaissances et a besoin d'en acquérir aussi, parce que chacun ne sait pas tout. Donc on est là aussi dans l'optique d'une ouverture totale. Si je fais quelque chose, je l'enseigne, je vais être en mesure de l'enseigner aux autres ou de laisser aux autres les moyens de s'en emparer. Ce qui veut dire, en termes de sciences de l'éducation, de pédagogie en général, on est dans un univers où le transfert de savoir et de compétences est au centre. On n'est pas en train de parler uniquement de matériel et de faire des choses, mais aussi de capitaliser sur du savoir. Si on améliore quelque chose, c'est pour conserver la méthode qu'on a utilisée pour le faire, les savoir-faire, apprendre aux autres à le faire, et non pas les enfermer pour... pour monétiser les objets ou monétiser le savoir derrière. On est dans beaucoup plus du côté de la pédagogie ouverte, et donc pas dans un système descendant d'un enseignant et un apprenant de l'autre côté. Chacun est à son tour enseignant, apprenant, on a tous à s'échanger des savoirs et des compétences.
En quoi est-ce que ça change le rapport justement au savoir, notamment je pense par rapport à l'école, dans la mesure où l'école reste sur un modèle descendant, hiérarchique, vertical? Finalement, ces nouvelles technologies-là viennent subvertir plus ou moins, ou du moins imposent une modification du rapport à la connaissance.
Alors, dire qu'elle l'impose, je ne sais pas, mais en tout cas, elle propose des alternatives. Et alors, ce n'est pas nouveau non plus en éducation. Les notions de pédagogie ouverte, de pédagogie de projet, de modèle d'enseignement alternatif, ça ne date pas d'hier. Maintenant, il est vrai que les nouvelles technologies, les moyens de communication en particulier, permettent une diffusion à une large échelle, d'une part, de savoir, et puis du travail collaboratif à plusieurs, sans être forcément dans une proximité physique. Donc, pour tous ces aspects-là, c'est bien, effectivement, mais le travers à éviter, c'est de se dire que ces technologies vont remplacer la médiation humaine et que... c'est magique, on va pouvoir tout apprendre juste en se connectant à Internet et en allant regarder les notices ou en regardant des vidéos avec un cyberprof qui anime le cours. Et ça, c'est faux. C'est le travers classique de dire que les nouvelles technologies vont remplacer le prof. Et quand on parle des hackers et de leur mode de fonctionnement, l'idée n'est pas du tout de dire que les nouvelles technologies ou des robots vont remplacer les humains demain. Bien au contraire, les technologies viennent aider la transmission de savoir, la mise au point de nouveaux dispositifs techniques, etc., etc. Mais bien sûr, sans se passer des échanges humains qui sont fondamentaux là-dedans.
Alors, cette culture numérique, est-ce qu'elle a des lieux qui lui sont dédiés ?
Oui, il y a des lieux, et effectivement, ça pourrait être... Le raccourci est de penser que les hackers n'œuvrent et ne communiquent que sur, on va dire, sur Internet ou via des machines. Alors, soit, c'est un fait de longue date, mais historiquement, là encore, je fais un petit retour en arrière, les hackers sont nés dans les... L'existence de ces pratiques-là a démarré dans les universités américaines notamment, mais globalement un peu partout il y avait de l'informatique. Et avant l'informatique, de la téléphonie. L'idée étant comment on se met en réseau et comment on contourne les protections, comment on utilise librement les machines. Et donc à cette époque-là, alors qu'Internet n'existait pas vraiment, si on parlait d'un réseau, c'était au sein d'un bâtiment, il y avait quand même un contact physique entre les gens. Et puis petit à petit, effectivement, le net arrive et on nous donne tous les moyens de communiquer à distance petit à petit. Et aujourd'hui, c'est de la visiophonie. On pourrait clairement dire que, si on le ramène à de la pédagogie, que l'école du futur, elle n'existe plus, c'est plus un bâtiment, c'est chacun devant son écran à la maison. Sauf que, ça ne marche pas comme ça. Là encore, il y a besoin de ce contact humain et aujourd'hui, autour du mouvement hacker, maker, bricoleur, etc., il y a un vrai besoin de lieux pour se rencontrer, échanger et faire, puisque si on parle de bricoler du matériel, à un moment donné, s'il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est bien gentil d'avoir une assistance par visiophonie à distance, mais c'est quand même vachement plus efficace si on est en face de quelqu'un qui sait expliquer. Et puis au-delà de tout ça, le lien humain, le fait de converger en un même lieu, ouvert, où on peut aller venir librement, faire, échanger, rencontrer des gens, tomber sur quelqu'un auquel on ne s'attendait pas forcément et découvrir quelque chose de nouveau, c'est hyper important. Donc oui, ces lieux-là, on les appelle des hackerspace, makerspace, Fab Lab, tout plein d'anglicismes qui vont tous dans le sens de un lieu de fabrication, un lieu d'échange de savoir, de compétences. Et ces lieux, où va-t-on les trouver ? On voit que globalement, ces lieux existent en dehors des sphères conventionnelles, en dehors de, On a parlé éducation, pédagogie, ça va être en dehors de l'école, ça va être en dehors de l'entreprise, c'est pas à la maison non plus. Ça va être dans un lieu informel, en dehors de tout ça. Alors ça peut être une association qui se monte et qui ouvre un local qui, pour échanger autour de ses pratiques, ça peut être un atelier ouvert, ça peut être un collectif de personnes, ça peut être le garage de quelqu'un effectivement, mais qu'on ouvre au public un créneau dans la semaine. Mais en tout cas, c'est réellement important que ce lieu se trouve en dehors de tous les autres. Parce que c'est là que naît la créativité, effectivement. Dans un lieu où on n'est pas bridé par les obligations classiques, que ce soit en entreprise en termes de productivité, rentabilité, à l'école en termes de « il y a un programme, on suit le programme et on ne fait pas forcément autre chose ». Donc les gens ont besoin de sortir de leur lieu habituel, de leur moule, pour aller se confronter à des gens différents, dans un lieu différent, pour des pratiques nouvelles. Et donc oui, les lieux sont très importants.
Alors si je comprends bien, cette culture à cœur met l'homme au centre de la technologie.
Complètement. C'est ce que défendent absolument les hackers. On n'a pas parlé de créativité, mais et s'il y a bien quelque chose de fondamentalement humain, c'est la créativité. Hein. C'est pas un robot qui va être créatif. Et dans toute cette idée, c'est la créativité qui prévaut en fait. Les hackers, dans cette idée de réappropriation, de bricolage et donc de bricolage créatif, l'idée est de dire ben non, je ne vais pas que consommer ce qu'on me donne. Je suis moi aussi en mesure de créer quelque chose et donc d'amener de l'humain, d'insuffler de l'humain dans l'usage de ces satanées machines qui nous entourent. Voilà.
Aymeric Lenné, merci.
Merci.